Il est 14h10 à Paris, 13h10 en temps universel. Juliette Jacquemin pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Juliette.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. À venir dans cette émission, une feuille d'impôt particulièrement scrutée aux États-Unis. Elle vient de Donald Trump, elle a été rendue publique hier. C'est suffisamment rare pour créer l'événement. Le président a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus. À venir aussi, le scandale de corruption Petrobras au Brésil, encore, toujours. Il prend une nouvelle dimension aujourd'hui, puisque le procureur général demande d'ouvrir 83 nouvelles enquêtes. La liste des nouvelles personnes visées n'a pas été dévoilée officiellement, mais des ministres seraient concernés, des députés également. De quoi ternir encore un peu plus l'image de la classe politique brésilienne. On verra ce qu'en dit la presse. On s'intéressera aussi à une coutume indigène en Équateur, la Minga. C'est le fait pour les villageois de s'associer pour réaliser bénévolement les travaux dont leur village a besoin. Une coutume qui a périclité avec l'arrivée de l'impôt, le développement des travaux publics aussi, mais les autorités de Quito, la capitale, veulent la réhabiliter.
C'est vraiment très bien d'avoir récupéré les Mingas, les travaux collectifs, les voisins s'unissent, ils se connaissent mieux, on sait sur qui on peut compter. Faire un Minga avec peu de gens, cela ne sert à rien. Il faut plus de travaux collectifs pour que le quartier soit plus uni.
Un reportage d'Éric Sanson à retrouver dans quelques minutes. Et puis, toute l'actualité des Outre-mer, ce sera avec Odan Agiali à la toute fin de ce journal.
Port-au-Prince, 89.3 FM. Revue de presse des Amériques.
La question avait été posée à de nombreuses reprises pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. Donald Trump payait-il ses impôts? Une question à laquelle personne n'avait la réponse, d'autant que le candidat de l'époque refusait de rendre ses déclarations publiques. Mais hier, une partie du mystère a été levée. Une chaîne de télévision a mis la main sur les deux premières pages de sa déclaration de 2005. Réponse donc oui, Donald Trump a bien payé ses impôts cette année-là, mais à un taux d'imposition inférieur aux autres grandes fortunes américaines. Romain Lemaresquier.
C'est le journaliste indépendant David Johnston qui les a reçus à son domicile. Auteur d'un livre sur Donald Trump, ce journaliste qui a obtenu le prix Pulitzer en 2001 a transmis les deux premières pages de la feuille d'imposition de Donald Trump à la chaîne de télévision MSNBC. Selon le document, le magnat de l'immobilier aurait versé 38 millions de dollars au fisc pour des revenus estimés à 150 millions de dollars. Mais si Donald Trump a reversé l'équivalent de 25% de ses revenus, il l'a fait au titre de l'impôt minimum alternatif, un impôt spécial conçu pour éviter que des contribuables profitent de niches fiscales, ce qu'avait tenté de faire l'actuel président en déduisant 100 millions de dollars de pertes à ses revenus. La presse américaine a immédiatement comparé cette feuille d'impôt à celle des Clinton en 2005 et ceux qui ne sont que millionnaires ont reversé plus de 30% de leurs revenus, soit 5% de plus que le milliardaire new-yorkais. Un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat a confirmé les montants après avoir affirmé qu'il était illégal de dérober et de publier des déclarations de revenus, ce que conteste MSNBC. David Johnston va même plus loin puisque selon le journaliste qui a reçu les documents en question, je cite, il est tout à fait possible que Donald Trump m'ait envoyé ça.
Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et cette feuille d'impôt fait aussi la une de votre revue de presse.
Oui, avec des commentaires parfois amusants. On voit là une surprise, écrit le Miami Herald, il a payé 38 millions de dollars d'impôts. Cette révélation est finalement une bonne nouvelle pour le président soupçonné de n'avoir pas du tout contribuer à l'effort de la nation. Elle devrait mettre un terme aussi à toutes les spéculations pour savoir si oui ou non le milliardaire a payé des impôts. Reste toutefois une question à laquelle les Américains n'ont pas encore eu de réponse, poursuit le Miami Herald. Comment Donald Trump a gagné son argent, selon le journaliste qui a obtenu les feuilles d'impôts? Eh bien, ces documents ne permettent pas de savoir quelles ont été les sources des revenus du président.
Oui, cela dit, les feuilles d'impôts permettent aussi d'autres découvertes.
Oui, la presse qui s'est jetée sur ces documents pour les analyser au mieux possible note un détail important. Juliette, le taux d'imposition d'environ 25% n'a été atteint que grâce au paiement de 31 millions de dollars supplémentaires par le couple Trump et cela au titre de l'impôt minimum alternatif. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un impôt créé pour empêcher les contribuables de bénéficier des niches fiscales et d'échapper ainsi au fisc. Et en fait, pendant la campagne, note le site Brexit Mother Jones, Donald Trump a proposé justement de supprimer cet impôt minimum alternatif. On comprend maintenant pourquoi. Sans cette contribution obligatoire, Donald Trump aurait payé à peine 5 millions de dollars sur un revenu de 153 millions, souligne Mother Jones.
Autre titre dans la presse nord-américaine dont on a parlé cette semaine, le projet des Républicains d'abroger et de remplacer l'Obamacare.
Et oui, une affaire qui se révèle plus compliquée que prévu, car les sénateurs républicains ne sont pas du tout d'accord avec le projet de loi de leurs confrères de la Chambre des représentants. C'est à lire dans le New York Times. Après un report alarmant publié par le bureau du budget du Congrès, selon lequel plus de 20 millions d'Américains perdraient leur assurance d'ici 2026, les plus modérés des conservateurs demandent des gages en faveur des personnes pauvres et âgées. Leonard Lentz, député républicain de la Chambre, est conscient du défi et le dit au New York Times. Nous devons nous assurer que le projet de loi ait des chances de passer au Sénat, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À noter également que selon le sondage, un sondage en tout cas publié par le LA Times, la majorité des Américains estiment que la réforme d'Obamacare va augmenter le coût des assurances et laisser plus de personnes sans couverture sociale.
Restez avec nous, Harim, on referme ce chapitre sur l'actualité américaine avec un tour du côté du Parlement européen. Et oui, car figurez-vous qu'à Strasbourg, les eurodéputés se mobilisent massivement en ce moment pour faire face à la règle du bâillon, une règle rétablie et élargie par Donald Trump. Elle interdit le financement par les États-Unis d'organisations de planning familial étrangères, quelles que soient leurs activités. Écoutez les explications de Tudor Tepeneag.
Lors d'un débat dans l'hémicycle, le représentant de la Commission européenne a tenu à souligner que la décision du président américain Donald Trump pouvait mettre en danger la vie de nombreuses femmes à travers le monde, notamment dans les pays les plus pauvres. Et l'eurodéputé écologiste Karima Delli a évoqué des initiatives au sein de l'Union européenne pour soutenir les organisations internationales de planification familiale privées de fonds américains.
L'Union européenne réagit. 10 États se bougent, le gouvernement néerlandais, finlandais, belge, ils se sont réunis avec des acteurs privés et ont déjà réussi à mettre au pot commun 181 millions d'euros. C'est une bonne chose, mais c'est pas assez. Donc il faut aller plus loin. Il va falloir se battre. Juste une mobilisation citoyenne, des gouvernements qui sont courageux et qui affrontent un conservateur comme M. Donald Trump et de dire bah, tous les droits fondamentaux doivent être respectés.
Et les droits des femmes sont des droits fondamentaux, ont affirmé plusieurs eurodéputés, parmi lesquels la Suédoise Corazza Bildt du groupe conservateur PPE, qui a souligné qu'aucune femme au monde ne devait risquer sa vie pour avoir un enfant. Elle a dit aussi que le sexisme de Donald Trump était quelque chose d'aussi grave que les problèmes de sécurité en Europe. Tudor Tepeneag, Strasbourg, RFI.
Harim Lipold, on part maintenant au Brésil. Le Brésil où l'étau se resserre autour des politiciens accusés de corruption. C'est toujours l'affaire Petrobras.
Oui, c'est une nouvelle très très attendue qui fait aujourd'hui la une de tous les journaux brésiliens et pour cause. Car le procureur général Rodrigo Janot demande à la Cour suprême l'ouverture de 83 nouvelles enquêtes dans le cadre de l'opération Lava Jato, ou Lavage Express en français. Une opération qui a déjà mis à jour le plus vaste scandale de corruption au Brésil et même en Amérique latine. Les noms des personnes visées n'ont pas été dévoilés car le dossier reste encore sous le sceau du secret judiciaire. Mais le procureur, dans un souci de transparence, a demandé que le secret soit levé, écrit au Globo.
Et d'ailleurs, ce même journal publie les noms de certains députés, de certains ministres qui seraient dans le viseur de la justice.
Ah oui, parmi eux, 5 ministres de l'actuel gouvernement, du président Michel Temer, de nombreux sénateurs de la majorité, mais aussi les anciens présidents du Parti des Travailleurs, à savoir Dilma Rousseff et Lula Ignacio da Silva. D'après Folha de São Paulo, les parlementaires accusés de corruption se préparent déjà à une tempête judiciaire, mais le gouvernement est lui aussi très très préoccupé car ces révélations tombent au plus mauvais moment, écrit le journal. Le président Michel Temer fait face à une vague de protestations contre son projet de réforme des retraites, alors que l'économie ne montre toujours pas de signes de reprise.
Le Venezuela menacé d'exclusion au sein de l'Organisation des États américains.
Oui, c'est à la une du Miami Herald aujourd'hui. Le secrétaire général de l'organisation, Luis Almagro, a demandé l'application de la charte démocratique interaméricaine et l'a menacé de suspendre le Venezuela de l'OEA si les élections générales n'y sont pas rapidement organisées. Luis Almagro estime dans un rapport de 75 pages que toutes les tentatives de dialogue entre le gouvernement et l'opposition ont échoué. Le gouvernement vénézuélien n'a pas tardé de réagir, c'est-à-dire sur le site de la chaîne Télésur, un site, la chaîne, on va dire, très pro-gouvernementale. Dans un communiqué incendiaire, la chancellerie accuse le secrétaire général d'encourager, je cite, une intervention internationale et d'intensifier la guerre économique contre Caracas.
Et puis on termine cette revue de presse en Haïti, car le prix du gaz a flambé.
Et oui, du coup, la presse, Juliette, s'inquiète. Le prix du gaz propane a augmenté de plus de 20% en l'espace de quelques semaines, constate le National. Selon le quotidien, les raisons de cette augmentation ne sont pas connues, mais on sait qu'elle touche surtout les classes moyennes, des classes silencieuses, trop silencieuses, selon le National, qui poursuit le haut et le bas, semble se liguer contre les classes moyennes dans un étrange complot dont seule la Nation va en payer les conséquences. Et pendant que le prix du propane augmente, le commerce du charbon de bois fleurit, écrit encore le National. Or, il ne sert à rien de parler de reboisement quand on coupe à tout vent. Le journal dénonce un manque de gouvernance qui aura pour conséquence la réduction du territoire national à une peau de chagrin.
Merci Arima Lipol d'une revue de presse à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
La chronique des Amériques.
RFI 8h21 à Quito, en Équateur, Quito, où la mairie de la capitale décide de réhabiliter une tradition ancestrale, la Minga, une institution qui date de l'époque des Indiens. Il s'agit de travaux collectifs, volontaires, qui pendant longtemps ont permis aux communautés rurales de progresser en l'absence de l'État. Une coutume qui a peu à peu perdu du terrain avec le développement de l'impôt et des travaux publics, mais les autorités y voient désormais des avantages. Le reportage à Quito de notre correspondant Éric Sanson.
Dimanche dernier, à 9h du matin, le ciel est lourd et il fait frisquer dans les rues des quartiers pauvres José Peralta et San Fernando de Huamani, au sud de Quito. De nombreux habitants, comme Estela Telinchando et Santo Rodriguez, sont pourtant dehors, pelle et pioche à la main.
On participe à la Minga parce qu'on a besoin d'un nouveau terrain de football. Celui qui est en face est en mauvais état et les jeunes, les enfants et les parents jouent ici.
Comme ils vont construire un parc un peu plus loin, on est en train de nettoyer les trottoirs, d'enlever la terre et les herbes. Même si c'est dimanche et qu'on pourrait être avec la famille, c'est important qu'on soit là. Tout ce qui contribue à améliorer le quartier est bon pour la population. Plus on est unis, plus le quartier sera agréable à vivre.
Une opinion partagée par Christina Doutan.
C'est vraiment très bien d'avoir récupéré les Minga, les travaux collectifs, les voisins s'unissent, ils se connaissent mieux, on sait sur qui on peut compter. Faire un Minga avec peu de gens, cela ne sert à rien. Il faut plus de travaux collectifs pour que le quartier soit plus uni.
Les Minga ont lieu toutes les fins de semaine pour profiter du temps libre des habitants. Certaines interventions sont légères, les Mingas, d'autres plus lourdes, les méga Mingas. José Luis Guevara, secrétaire général de coordination territoriale de la mairie de Quito.
Il y a une différence entre la méga Minga et la Minga. La méga, c'est quand tous les services de la mairie se mobilisent pour aider dans un quartier. La Minga, ce sont des travaux collectifs entre habitants que nous aidons, mais à une échelle plus petite.
Dimanche dernier, c'est bien une méga Minga qui a été déclenchée. Plusieurs bulldozers et camions sont présents. Un autre engin nettoie les prises d'eau, alors que sous une tente, des spécialistes offrent des services gratuits de nutrition et de santé. Au sud de Quito, traditionnellement industriel et populaire, le quartier José Peralta a plus de 30 ans d'âge. À l'époque, il n'y avait que des pâturages. Aujourd'hui, les services de base sont présents. Il y a des rues asphaltées, trois lignes de bus, l'eau courante et l'électricité. Mais les habitants, comme Eulalia Caramarca, ont des demandes précises.
On veut qu'ils arrangent l'espace vert. Ça fait 30 ans qu'on est oublié ici. On n'a pas de jeux pour les enfants, de parc pour les grands-parents, de terrain de sport pour les adolescents. Ici, il y a beaucoup de délinquance. Les jeunes sont tentés par la drogue parce qu'ils n'ont pas d'espace qui leur soit destiné.
Cela dit, il ne suffit pas simplement de demander pour obtenir l'intervention de la mairie. José Luis Guevara.
Nos techniciens commencent à faire une étude technique. Ils vont dans le quartier, ils étudient les lieux de l'intervention. Ils évaluent les besoins et les coûts. Ensuite, la mairie priorise les quartiers où il faut intervenir, puis on retourne dans le quartier, on réunit la population, on définit ensemble ce que l'on va faire. C'est comme cela que l'on organise une méga Minga.
Une fois terminés les travaux collectifs, la collectivité doit contribuer à leur entretien. Fernando Fonseca, habitant du quartier.
Les dirigeants du quartier ont la responsabilité de conserver le terrain de sport dans l'avenir. Après la Minga, nous allons demander que la mairie mette une clôture et nous nous assurerons que l'endroit soit sûr pour la population.
Autre possibilité, demander à recevoir une partie du budget municipal participatif dont la population détermine l'usage. Très souvent, la Minga est donc une première étape vers plus de travaux publics, mais c'est souvent le premier pas qui compte. Eric Sanson, Quito, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Odana Jali.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
La Martinique vient d'inaugurer sa maison de la mangrove. C'est une première du genre dans toute la Caraïbe.
Oui Juliette, en tout cas c'est ce qu'affirme avec fierté le parc national martiniquais. Inauguration hier donc de la structure qui se donne pour objectif d'améliorer la connaissance et de protéger les zones humides, des zones en net recul en Martinique. Les mangroves abritent d'innombrables espèces mais restent menacées par le réchauffement climatique. Reportage à la forêt lavatable aux Trois Îlets de Christine Cupit.
Alors l'entretien, c'est surtout la préservation que l'on a aujourd'hui et puis la mise en valeur à travers un sentier du littoral qui part depuis la maison de la Canne et qui longe tout le littoral.
Visite dans la mangrove de la forêt lavatable. Louis Boutrin, président du parc naturel de Martinique, sert de guide à Ségolène Royal.
C'est vrai que c'est un site d'abord de biodiversité, de ressourcerie pour les poissons, de protection du littoral. C'est très précieux la mangrove, dans toute cette zone caraïbe d'ailleurs.
La ministre de l'Environnement, de l'énergie et de la mer prévoit de protéger 55 000 hectares de mangroves sur l'ensemble du territoire national d'ici 2020.
Il y a aussi le réchauffement climatique, l'acidification de l'océan qui détruit les mangroves et donc elles sont de plus en plus fragilisées. Pourtant, c'est ce qui protège le territoire contre les grandes vagues. Par exemple, une mangrove bien entretenue peut amortir une vague de 7 mètres de haut.
C'est justement pour préserver nos zones humides menacées que la maison de la mangrove a été créée. Elle servira de porte d'entrée à une réserve naturelle située à Génipa, entre Rivière-Salée, Trois-Îlets, Ducos et le Lamantin. Aujourd'hui, notre territoire dispose de 1858 hectares de mangroves. C'est peu comparé à autrefois, mais l'urbanisation et la déforestation sont passées par là. C'est d'ailleurs sur la mangrove que la ville de Fort-de-France s'est construite.
Reportage Martinique Première de Christine Cupit. À Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, la police a prolongé la garde à vue de deux individus arrêtés hier. Des hommes suspectés d'être impliqués dans les coups de feu qui ont blessé un collégien de 11 ans mardi. Le tireur présumé serait lui-même mineur. Il visait en fait un homme avec lequel il avait eu un contentieux et échange d'insultes. C'est donc en tirant sur sa cible qu'il a atteint le jeune collégien. La victime reste hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur présumé devrait lui être présenté dans la journée à un juge pour enfants. Et puis ça y est, la campagne sucrière a enfin commencé à Marie-Galante en Guadeloupe. Un mois de retard dû à la signature tardive de l'accord sur la construction d'une centrale thermique. Centrale adossée à la sucrerie Romerie pour lui fournir vapeur et électricité. Et pourtant, Ségolène Royal, la ministre, a affirmé hier qu'aucun choix définitif n'est arrêté dans ce dossier. Un délai supplémentaire qui inquiète Josette Borel Lincertain, la présidente du conseil départemental.
Le problème environnemental, je crois, par les temps qui courent, c'est un problème qui est indispensable. Il faut obligatoirement se poser. Mais le problème économique lié à l'existence de la canne, le problème de l'âme de Marie-Galante. Je peux dire qu'une Marie-Galante sans la canne à sucre, ça serait, je dirais, quelque chose qui serait vide de sens. Parce que tout Marie-Galantais, eh bien, en quelque part, je dirais, ses racines dans les champs de canne. Donc, un peu inquiète parce que jusqu'à présent, je pense qu'on parle de l'avenir du Nil un peu modèle. On peut avoir cette ambition-là, mais comment dans une petite île où il y a tant de souffrances, où il y a un passé qui est douloureux, mais il y a cette volonté quand même de ces gens qui sont, je dirais, qui se sont forgés dans les champs de canne, au soleil, dans la mer.
Josette Borel Lincertain répondait à Olivier Lancien. La ministre Ségolène Royal a donc acté hier un délai supplémentaire de 18 mois pour traiter le dossier de la centrale thermique de Marie-Galante. Bonne journée.
Bonne journée et merci Odane Agiali, merci aussi à Rodolphe Marquand aux manettes de cette émission aujourd'hui. RFI, il est presque 9h30 à Port-au-Prince. Très belle journée à tous sur la Radio du Monde.
RFI Talent présente les Amazones d'Afrique. Un collectif inédit réunissant pas moins de 8 chanteuses, parmi lesquelles figurent Angélique Kidjo, Neka, Candia Kouyaté ou encore Mamani Keita. Réunis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces divas signent un album unique intitulé République Amazon. Plus d'infos sur musique.rfi.fr/talent.
7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,
le rôle des grands-parents dans les familles. Et si c'était eux, les meilleurs parents?
Vendredi,
faut-il une allocation d'études pour tous les étudiants, quel que soit leur revenu?
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU.
RFI.